Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée lundi 2 août, notamment par les activités du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Zambie, en République démocratique du Congo et en Algérie, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le Saint-Père a envoyé lundi un message aux participants au festival des jeunes à Medjugorje, ville de Bosnie-Herzégovine, qui se tient du 1er au 6 août. Dans ce message, François rappelle aux participants que ce festival de la jeunesse est une semaine intense de prières et de rencontres avec Jésus-Christ, notamment dans sa parole vivante, dans l'Eucharistie, dans l'adoration et dans le sacrement de la réconciliation. Cet événement, écrit le pape, a le pouvoir de nous mettre sur le chemin du Seigneur. L'évêque de Rome conclut son message en priant pour que, dans leur cheminement avec Jésus, que la Vierge Marie, notre Mère Céleste, obtienne pour eux la lumière et la force de l'Esprit Saint. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé le professeur Theo Strickland, membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences. Le professeur Donateo est professeur de physique optique au département de physique et d'astronomie de l'Université de Waterloo au Canada et a été lauréat du prix Nobel de physique 2018. Après la pause d'été, les audiences générales du pape François dans la salle Paul VI reprendront ce mercredi 4 août. Comme il est de coutume, ce rendez-vous de chaque mercredi avec le pape avait été suspendu en juillet pour permettre une période de repos. Cette année, ce temps de repos a également coïncidé avec la convalescence du Saint-Père qui a subi le 4 juillet une opération du côlon à l'hôpital de Gemelli. Une instruction pour l'application de l'enseignement à distance dans les universités, facultés ecclésiastiques a été publiée par la Congrégation pour l'éducation catholique. Elle entrera en vigueur le premier jour de l'année académique 2021-2022 ou de l'année académique 2022 selon le calendrier des différentes régions. Divisé en trois parties, le texte est accompagné d'une annexe énumérant les documents requis par le dicastère pour l'approbation de la méthode d'enseignement à distance. Les facultés ecclésiastiques et les universités ont désormais la possibilité, sous réserve de l'approbation du dicastère, d'élaborer des programmes d'études dans lesquels une partie des cours peut être réalisée sous forme d'enseignement à distance. Par conséquent, l'objectif de cette dernière instruction, fruit d'une vaste consultation, est d'offrir des lignes directrices et des normes pour l'application de cette méthode. Dans la province de Cabo Delgado au Mozambique, les personnes séropositives sont restées des mois sans médicaments dans un système de santé qui s'effondre. C'est le coup de cœur lancé le samedi dernier par la sœur Marinesh Biazibeti, directrice de la commission de la conférence épiscopale mozambicaine pour les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées. À en croire la sœur Biazibeti, plus de 2 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida ont été abandonnées à leur triste sort et meurent en grand nombre suite à la destruction et à la fermeture des installations sanitaires. Beaucoup ne contrôlent plus leur état de santé. Ils ne prennent pas de médicaments, cela signifie plus de souffrance et de décès, a déploré la sœur Biazibeti. La religieuse a en outre déploré que les dommages causés aux infrastructures sociales de Cabo Delgado, qui connaît l'insurrection depuis 2017, se soient étendus de façon considérable au secteur de la santé de la province. Elle a fait remarquer que 30% des 39 unités de santé de la province sont actuellement fermées. L'insurrection en cours, qui a été liée à un groupe armé lié à l'État islamique, Al-Shabaab, a également perturbé la scolarité de plus de 123 000 élèves, détruisant 46 écoles, 100 4 salles de classe, 30 blocs administratifs et 5 services de district pour l'éducation de la jeunesse et la technologie. Direction Côte d'Ivoire pour parler de la messe d'au revoir au père Célestin Ikomba, fils de la charité qui, après 18 ans passés à l'aumônerie du port d'Abidjan, de l'apostolat de la mer et de la pastorale des migrants, est appelé à d'autres missions.
Le père Célestin Ikomba est en fin d'émission, l'aumônier du port d'Abidjan, responsable de l'apostolat de la mer, de la pastorale migratoire de la route, s'en va après 18 ans de bons et loyaux services rendus à l'archidiocèse d'Abidjan et l'église locale des Côtes d'Ivoire. Le secrétaire exécutif national de l'apostolat de la mer, des migrants du tourisme sortant, s'est dit heureux d'avoir apporté sa contribution au rayonnement de l'apostolat de la mer et des migrants dans le pays.
Le sentiment, c'est d'abord, c'est la reconnaissance par rapport à ce que l'Église nous a demandé de faire dans ce chantier. Faire sortir l'apostolat de la mer et la pastorale des migrations, de l'ignorance, et l'exposer, vulgariser tout cela, et dire merci au Seigneur, parce que ce travail, nous avons essayé de le faire, même si nous l'avons peut-être pas bien fait.
Cette messe d'action de grâce au de revoir du Père Célestin a vu la présence de nombreuses personnalités, prêtres, religieux, religieuses, tous retiennent de lui. Un homme très engagé au service de l'Église. Son travail est salué par le secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne, le père Emmanuel Wayne.
Ce que je retiens de Père Ikomba, c'est que c'est un travailleur, un bosseur. Parfois, il fonce tellement que certainement, il n'a pas le temps pour lui-même. Par les résultats du travail qu'il a fourni, les rapports que nous recevions, je voyais très bien que le père donnait le meilleur de lui-même.
Notons que le père Célestin Ikomba est remplacé par le père Emmanuel Akaamon, également fils de la charité. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, notre correspondant local nous rend compte des actes de vandalisme et de profanation enregistrés dans le diocèse de Mbujimaï et dans l'archidiocèse de Kinshasa.
Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Otembitapa, archevêque de Kisangani, a adressé le dimanche 1er août un message à l'évêque de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, Mgr Bernard Emmanuel Kassanda, pour partager avec lui sa tristesse et son indignation devant les actes de vandalisme et des profanations commis depuis le mois d'avril au moins par des bandits dans quelques paroisses du diocèse de Mbujimaï. Face à la presse, l'évêque de Mbujimaï lui-même a prévenu les auteurs des actes d'irrespect envers le sacré.
À vous, auteurs de ces actes abominables et crimes odieux, je vous somme de venir restituer les objets sacrés que vous avez indignement emportés.
Des messes sont célébrées dans le diocèse de Mbujimaï avec de neuvaines de prières, des journées de jeûne, d'adoration du Saint-Sacrement et le chemin de la croix. Par ailleurs, dans l'archidiocèse de Kinshasa, le même dimanche 1er août, le secrétaire chancelier, M. l'abbé Georges Njila, a publié un communiqué pour regretter et désapprouver le fait qu'un groupe de personnes peu responsables se soit présenté à l'archevêché et à la résidence de l'archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et des propos désobligeants et posant des actes de dégradation. Le communiqué invite les fidèles catholiques à intensifier les prières et à rester extrêmement vigilants pour empêcher toute dégradation du patrimoine ecclésial et prudents pour ne pas se laisser influencer. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Parlons à présent de l'ordination sacerdotale dans le diocèse d'Obala au Cameroun avec notre correspondante locale.
Les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nkolsele vivent un quotidien émaillé de deuil, de chômage et de sous-développement infrastructurel. Voir donc leur ami et frère devenir prêtre de Jésus-Christ est une occasion de grande joie et d'espérance. Pour eux, il s'agit d'une pentecôte qui va les aider à s'unir davantage pour vivre en enfant de Dieu et pour développer leur localité. L'évêque du diocèse de Bala, Mgr Sosthène Bayemi, a en effet noté que la tristesse qui caractérisait le petit village de Nkolsele avait fait place à des signes de joie, un passage des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Mgr Bayemi a donc encouragé les jeunes de ce village à être attentifs aux appels de l'Esprit-Saint et à y répondre généreusement à l'exemple de leur ami d'enfance, le désormais abbé Jean-Pierre Cyril Beyememedou. L'évêque d'Obala a également rappelé les missions du prêtre et les défis qui attendent le jeune nouvellement ordonné. Il lui faudra continuer à tout quitter pour le Christ, être le fervent pratiquant de tous ses enseignements et transmettre au monde les grâces du Seigneur. Notons que les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Oncol-Célé sont venus massivement prier avec et encourager le nouveau prêtre de Jésus-Christ. Ils espèrent que leur paroisse, bientôt centenaire, fera naître d'autres serviteurs de Dieu dans le sacerdoce ministériel. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les médecins des hôpitaux publics au Nigeria ont entamé lundi une grève pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux du pays qui craint une troisième vague de coronavirus. Le syndicat demande notamment au gouvernement d'honorer sa promesse de payer des indemnités aux familles des docteurs décédés alors qu'ils combattaient le coronavirus, a indiqué le président de l'Association nationale des internes, Uyi Lawa Okwai Esui. Les médecins nigérians dénoncent notamment un nombre insuffisant de lits, de médicaments et de kits de protection dans les établissements. Dans un autre registre, les 5 Nigérians arrêtés début juillet à Abuja pour avoir appelé au départ du président Muhammadu Buhari étaient toujours détenus lundi par la police d'État une semaine après la décision d'une cour de justice de les libérer, a indiqué leur avocat. Toujours au Nigeria, le pays a formulé de nouvelles inculpations pour terrorisme contre le principal dirigeant de la minorité chiite dans le pays. C'est ce qu'a annoncé dimanche un avocat de l'accusation quelques jours après l'acquittement du religieux Ibrahim Sakzaki pour meurtre après plus de 5 ans de détention. Le président zambien Edgar Lungu a annoncé dimanche avoir ordonné le déploiement de l'armée pour réprimer les violences électorales avant le scrutin présidentiel et législatif du 12 août. Afin de freiner la violence politique dont nous avons été témoins au cours des 2 derniers jours, j'ai autorisé l'armée zambienne, l'armée de l'air zambienne et le service national zambien à aider la police zambienne à faire face à la situation sécuritaire, a déclaré le président Lungu. 2 députés de l'opposition qui se sont opposés au coup de force du président Kais Saied et à la suspension du Parlement ont été arrêtés, c'est ce qu'a annoncé dimanche le chef de leur parti, Seyfedine Maklouf. Selon M. Maklouf, avocat très hostile au président Saied, les 2 députés et lui-même sont poursuivis dans une affaire liée à une altercation survenue en mars à l'aéroport de Tunis. Ils sont soupçonnés d'avoir insulté des agents de la police aux frontières qui avaient interdit à une femme de voyager.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
En Égypte, 89 djihadistes du groupe État islamique ont été tués dans des opérations de l'armée dans la péninsule du Sinaï, dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué dimanche un porte-parole militaire. Au moins 8 soldats égyptiens ont par ailleurs été tués ou blessés, a ajouté le porte-parole de l'armée. L'armée a également indiqué avoir détruit 404 engins explosifs improvisés, 4 ceintures explosives et 13 tunnels utilisés par les djihadistes pour infiltrer le territoire égyptien depuis Gaza, territoire palestinien voisin. 15 militaires nigériens ont été tués samedi et 6 autres sont portés disparus après une attaque terroriste dans le département de Torodi, dans le sud-ouest du pays, proche du Burkina Faso, c'est ce qu'a annoncé dimanche soir le ministère nigérien de la Défense. Les supporters du Mouloudia Club d'Alger, une des équipes vedettes du football algérien, ont renoncé à fêter le prochain centenaire du club afin de reverser l'argent pour fournir des bouteilles d'oxygène aux patients de COVID-19. Ce centenaire sera celui du Mouloudia de l'oxygène à travers une grande action de solidarité, a déclaré dimanche le vice-président du Comité national des supporters de Mouloudia Club d'Alger, Hamid Atmani.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la santé avec Françoise Niamien.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé concerne aujourd'hui la désinformation en ligne qui se propage rapidement et qui est difficile à mesurer. Les 10 organisations et les groupes africains de vérification des faits qui constituent l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique s'efforcent de suivre et réfuter les dangereux mythes sur la pandémie et les vaccins contre la COVID-19. Les données récoltées depuis mars 2021 dans 20 pays africains montrent que les fausses allégations concernant les vaccins contre la COVID-19 sont de loin les mythes les plus répandus sur la pandémie et que la peur des effets secondaires est la cause principale de la réticence des gens à se faire vacciner. Les organisations africaines de vérification des faits affirment avoir réfuté plus de 1300 rapports trompeurs depuis le début de la pandémie. Rabiu Al-Hassan, le rédacteur en chef de GhanaFact, la première plateforme ghanéenne indépendante de vérification des faits et l'un des membres de ce groupe, est en première ligne dans la lutte pour réfuter les mythes et propager des faits qui sauvent des vies. Plusieurs facteurs alimentent la propagation de la désinformation sur la santé en Afrique de l'Ouest et au Ghana en particulier. Les gens sont dépassés par le flot d'informations sur la COVID-19 et après plus d'une année de pandémie, ils sont fatigués de tout cela. Pourtant, alors que nous continuons à apprendre sur ce virus, cela peut aussi créer la confusion. Le ruissellement de vidéos des coronasceptiques entrave aussi les efforts de lutte. D'autres facteurs alimentant la propagation de l'infodémie trouvent leurs origines dans des croyances religieuses, tandis qu'il semble y avoir une fausse impression de sécurité croissante et inquiétante au sein du public après avoir vu les récents matchs de football européen avec leur stade rempli de supporters. Pourtant, beaucoup de pays européens ont vacciné un nombre élevé de leurs citoyens, contrairement à l'Afrique. Un autre point important qui mérite d'être mentionné, ce sont les messages occasionnellement contradictoires de certains leaders. Certains ne semblent pas mettre en pratique ce qu'ils prêchent concernant les protocoles de prévention de la COVID-19. Une large part de la désinformation circule sur les réseaux sociaux, mais le pire est que de fausses allégations fleurissent hors ligne dans des cercles fermés. Le groupe réfute de folles théories du complot autour des vaccins contre la COVID-19 élaborées par des pasteurs renommés et suivis par de très nombreux fidèles en Afrique de l'Ouest. Aussi, certains sceptiques de la COVID-19 produisent des vidéos qui touchent les gens et s'imposent dans ce public. Un autre exemple donné par l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique est cette affirmation que ceux qui reçoivent le vaccin se voient injecter un micropuce et des aimants. D'autres mensonges dangereux sont liés à des remèdes locaux non prouvés et de faux traitements de la COVID-19. Il semble qu'il existe une large confiance dans ces faux remèdes et on fait face au risque que les gens essaient de traiter eux-mêmes des symptômes sérieux. Pour arrêter la propagation de la désinformation, le groupe cherche d'atteindre de larges sections de la population avec des informations crédibles sur la COVID-19 et conçues dans leur propre langue. Il est crucial de travailler avec des leaders locaux et des leaders d'opinion respectés pour influencer ces communautés. Les leaders politiques doivent montrer de la cohérence entre leurs commentaires sur la COVID-19 et leur respect des protocoles s'ils veulent rester des voix crédibles dans la lutte contre le virus. Les entreprises de réseaux sociaux doivent se montrer plus attentives à la lutte contre les fausses informations, notamment sur le continent africain. Elles doivent reconnaître que les fausses informations causent encore plus de dommages ici du fait d'une faible culture numérique permettant d'identifier la désinformation. Concernant les réseaux sociaux et les applis de chat, nous pouvons tous faire une pause et examiner plus attentivement les allégations autour de la pandémie et des vaccins contre la COVID-19. Nous pouvons vérifier si l'information provient de sources réputées comme l'Organisation mondiale de la santé avant de les partager avec nos réseaux et nous pouvons les questionner. Si elle semble fallacieuse, préconise l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique.
Invité du jour.
Non. Notre invité du jour est Monseigneur Edmond Jitangar, archevêque de N'Djamena et président de la Conférence épiscopale du Tchad. Dans cette première partie de l'entretien que nous vous reproposons, Monseigneur Jitangar nous parle de la déclaration des évêques tchadiens au sortir de leur conseil permanent réuni du 28 au 30 juin dernier. Il commence par une analyse de la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut actuellement au Tchad. On l'écoute.
Depuis la mort du président Idriss Déby Itno, notre pays, le Tchad, vit dans un moment de grande ébullition, de prise de position diverses, mais il tout exprime les attentes de la majorité des Tchadiens pour un changement qualitatif dans la gouvernance du pays. Et bien malin qui pourra nous dire comment nous serons dans les 18 mois de transition que s'est donné la junte militaire qui a pris le pouvoir pour normaliser la vie politique, économique et sociale du pays. Mais par contre, on assiste à une accalmie. Alors, on se demande si c'est le calme qui précède la tempête ou bien si c'est vraiment une chance que les uns et les autres donnent envie du dialogue national inclusif. Dans les campagnes, ce que qui a déploré, c'est surtout l'insécurité et les conflits armés intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs et qui vraiment remettent en question le vivre ensemble des différentes communautés.
Y a-t-il des difficultés à parvenir à l'établissement d'un climat socio-politique apaisé au Tchad?
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu se dessiner de manière précise les signes annonciateurs d'un climat socio-politique apaisé, tant les divergences de point de vue sont grandes entre ceux qui veulent le changement et ceux qui sont contre le changement. Et les mesures prises par la junte militaire au pouvoir ne sont pas de nature à rassurer ou à répondre aux attentes de beaucoup de citoyens qui espèrent et aspirent à un changement substantiel dans leurs conditions de vie et de travail.
Face à cette situation sociopolitique qui prévaut, la conférence épiscopale tchadienne, au sortir de son conseil permanent réuni du 28 au 30 juin dernier, a produit une déclaration dans laquelle l'Église propose dans un premier temps l'organisation d'un dialogue national inclusif de réconciliation. Qu'est-ce que cela implique?
Le dialogue national inclusif annoncé par la junte militaire et réclamé par toutes les organisations sociopolitiques est véritablement un impératif, mais il a déjà commencé avec des ratés parce que l'impatience des autres de se maintenir au pouvoir hante les esprits des protagonistes et cela constitue un vrai blocage. Et c'est pour cela que l'Église catholique a suggéré que la réconciliation soit le premier objectif de ce dialogue.
Et toujours dans cette déclaration, les évêques demandent la révision de la charte de transition.
C'est parce que beaucoup de formations politiques, la société civile et bien des groupes et des syndicats ont remarqué et reconnu que cette charte a été élaborée unilatéralement et imposée par la junte militaire et elle ne reflète pas clairement la volonté de ceux-ci de se dessaisir du pouvoir après 18 mois, délai qu'ils se sont fixés pour passer la main au gouvernement civil et aux institutions normales de la République dans les conditions démocratiques que tout le monde réclame.
Dans cette même déclaration, les évêques tchadiens souhaitent aussi un accompagnement du processus de la transition tchadienne par les partenaires.
La vacance du pouvoir, de l'autorité de l'État, que la junte militaire dit assumer, montre quand même une certaine fragilité dans tout ce que les uns et les autres entendent faire ou souhaitent faire. C'est pour cela que d'emblée, dès l'annonce de la prise du pouvoir par la junte militaire, l'Union africaine, l'Union européenne, la Communauté économique d'Afrique centrale, ses principaux partenaires du Tchad ont pris position et se sont offerts pour accompagner la transition de 18 mois préconisée. Mais on sent aussi que dans cet accompagnement, il y a surtout l'influence d'un partenariat bilatéral. On a vu déjà des changements de position. Au point de départ, la déclaration de l'Union africaine a évolué un peu après une mission au Tchad. Les décisions qui sont prises sont difficilement applicables. Ensuite, la communauté européenne est restée figée sur la première déclaration et la communauté économique d'Afrique centrale, pratiquement, s'est un peu mise en réserve. Alors, nous ne comprenons pas comment, dans quelle mesure, les organisations internationales peuvent tenir parole d'accompagner le processus de transition dans les délais prévus.
Monseigneur Edmond Gitangar, archevêque de N'Djamena et président de la conférence épiscopale du Tchad, il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus. Maria, Mamusella, Mibi, 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 Mibi